peut commencer. Donc ça tombe bien qu'on arrive juste après Jocelyn Robert, qui ne m'entend pas, mais parce que justement, d'une certaine manière, notre démarche s'inscrit dans la continuité, mais je dirais avec un plus, c'est qu'on utilise des logiciels libres et qu'on s'inscrit dans une dynamique qui est celle de portée par le mouvement GNU-GPL et qui a des incidences aussi au niveau justement des pratiques artistiques et des formes que prennent les pratiques artistiques, notamment en relation à toutes ces questions de droit d'auteur et de collectif. Donc nous, on fait partie, donc Jean-François et moi, Sophie, on fait partie d'un collectif qui s'appelle APO 33, qui est basé à Nantes, qui est en gros constitué de 6 personnes vraiment actives en permanence. Et après, j'ai une constellation d'autres personnes qui tournent autour. Et on a une activité assez multiple, comme le site d'APO 33 peut le montrer. Donc, qui est à la fois, je dirais, le noyau d'APO 33 est constitué d'un collectif artistique. Donc, on développe des projets artistiques différents, installations sonores, essentiellement à partir du son. Son réseau, donc c'est pour ça que je pense que Jérôme nous a invités, parce qu'on est vraiment dans ces questionnements-là. Mais on a aussi tout un travail autour du développement d'outils avec les logiciels libres, d'outils pour la création sonore et multimédia en général. Parce qu'en fait, on a développé une distribution multimédia sous Linux, donc qui est téléchargeable et qui est gratuite, dont Jean-François parlera tout à l'heure. On a aussi tout un travail de recherche, je dirais, plus artistique, qui croise justement un travail artistique et un travail technologique, où on invite des artistes pour explorer, je dirais, des configurations techniques, des dispositifs à la fois technique et artistique pour collaborer, je dirais, sur des nouvelles formes de création qui intègrent la dimension du réseau. Et donc là, par exemple, dernièrement, on a organisé un événement qui s'appelait Territoire Virtuel. On a invité Hakim Volscheid, Brandon Label et Jean-Philippe Roux, avec les 3 artistes avec lesquels on travaille par ailleurs assez souvent. Et on a aussi un troisième aspect qui est l'organisation plus de séminaires, de réflexions philosophiques, puisque ma pratique personnelle, c'est la philosophie. Donc, c'est amener une réflexion qui, sur certains plans, est très proche de celle de Jocelyn, sur justement les différents enjeux, à la fois philosophiques au sens large, mais politiques, sociaux, urbains, qui sont en jeu dans notre pratique artistique et dans notre pratique en général. Donc, parce qu'on a aussi, d'une certaine manière, une implication politique. On a participé aux forums sociaux mondiaux. On a mis en place des dispositifs de transmission de la traduction dans le cadre des forums sociaux mondiaux qui ont eu lieu à Porto Alegre, au Brésil, et en Inde, à Mumbai. Donc, qui est en relation, je dirais, avec toute notre démarche de création. Et ensuite, on a un volet plus pédagogique où on intervient dans des quartiers pour travailler avec des structures pour mettre en place des projets de création qui impliquent, je dirais, des habitants des quartiers. Donc ça, c'est plus à Nantes. Donc aujourd'hui, en fait, pour parler du questionnement en fait de Locus Sonus, donc réseau, espace et audio, je vais l'aborder en parlant d'un projet artistique sur lequel on travaille en ce moment et qui est un peu l'aboutissement de 3 ans de recherche, 3 ans de travail, qui s'appelle le Poulpe et qui, d'une certaine manière, est une consiste à revisiter, si on reprend les 3 notions donc, qui sont en jeu dans le séminaire, dans le symposium, qui consiste à revisiter la notion d'espace à travers celle du réseau. Et là, je reprends un terme de Brandon Label qui, justement, qualifiait de notre pratique de « multiplying spaces », multiplication d'espace. Donc, en fait, le poulpe, qu'est-ce que c'est? Donc, ça prend une forme, je dirais, d'une installation sonore en réseau, donc que je vais décrire et qu'on va présenter à travers le site, qui en fait que nous on envisage un peu comme, enfin là je vais utiliser un peu des termes qu'on essaie de développer pour nommer le type de pratique qu'on essaie de mettre en place. Donc un agencement poétique dans le sens de poésie, c'est-à-dire production, qui d'une certaine manière forme une actualisation possible de la singularité, je dirais, du devenir APO 33. C'est-à-dire que APO 33, c'est un espace qui justement combine ces différentes activités et ces différents niveaux, qui est à la fois social, technique, politique, artistique. Et donc, c'est un devenir à la fois personnel et collectif qui, d'une certaine manière, donne forme. Enfin, la dimension artistique est pour nous une manière de produire une signification, de produire dans une forme, de signifier, je dirais, un des processus, enfin, ou les décroisements de processus ou des combinaisons de processus qui composent ce devenir particulier. Et le poulpe est, d'une certaine manière, une de ces actualisations. Donc je vais juste décrire un petit peu la spécificité du projet du Poulpe pour après montrer comment, à travers ce projet-là, certaines notions et modes, ce que j'appelle des modes opératoires, se sont développés qui, d'une certaine manière, nous ont amenés à envisager notre pratique artistique justement sur un peu différemment. Enfin, c'est-à-dire qui fait que de moins en moins on se définit comme artiste et on va plus parler de poétique pour qualifier notre pratique que de pratique artistique en tant que telle. Sachant que la pratique artistique ou le champ de l'art détermine un champ assez délimité et je dirais que toute notre pratique vise à faire exploser un peu ce champ qui, pour nous, enferme d'une certaine manière les possibilités de création. Et surtout les possibilités de création qui sont permises aujourd'hui par le développement de tous les nouveaux outils. Donc le Poulpe, c'est un... Donc là, je crois qu'on voit le site. Donc voilà. Donc là, c'est d'une certaine manière la dernière version du Poulpe, parce qu'on a fait des micro-versions précédentes qui prenaient plus la forme d'installations sonores dans un espace. Donc c'est à la fois une radio expérimentale en réseau. Donc c'était un peu l'idée de départ de mettre en relation, je dirais, des collectifs et des espaces à travers des plateformes radio en permettant à chacun, dans leur espace, d'avoir leur propre serveur qui diffuserait leur stream radio. Donc c'est une architecture aussi réseau partagé. Donc, la radio en réseau, le réseau, il n'est pas simplement... Enfin, il est à la fois technique, il est à la fois social et il est à la fois artistique. Plastique. Et donc là, je vais. Donc, c'est à la fois une radio expérimentale en réseau et ce qu'on appelle, l'intitulé qu'on a donné, organisme numérique et analogique en réseau, qui est constitué d'installations sonores dans différents lieux qui sont reliés entre elles via Internet. C'est-à-dire qu'on a investi dans 4 espaces. Donc le premier espace qu'on investit, c'est l'École des Beaux-Arts de Tours, dans lequel on met des micros, donc différents types de micro-capteurs. Ça va justement du micro-capteur piezo au micro d'ambiance, qu'on pose dans différents espaces en fonction du type de son qu'on pense être caractéristique du lieu. C'est-à-dire que notre installation ne va pas s'inscrire dans un espace d'exposition, mais dans le lieu de vie même. Donc on pose différents micros. Et ces micros, en fait, captent du son en permanence. Donc là, ce qu'on entend, c'est le son de quelle ville ? De Bourges. Donc, qui ensuite, ces flux sonores qui sont captés sont ensuite renvoyés sur un automate numérique, qui est donc sur un serveur qui est installé dans le lieu et qui en fait retransforme le son. Et qui ensuite l'envoie à la fois sur Internet, dans un flux streaming, et à la fois le redistribue dans l'espace à travers un système de spatialisation. C'est-à-dire que de la même manière qu'on a mis des micros un peu partout dans l'espace, on va mettre différents systèmes de haut-parleurs en fonction du point, enfin je dirais une lecture un peu tactique et stratégique du lieu, qui va faire qu'à tel endroit, on va mettre tel type de haut-parleurs pour que ça soit plus discret. Parce que l'idée, c'est de créer un environnement sonore, je dirais, artificielle, c'est-à-dire de reconstruire l'environnement sonore naturel dans le sens de là, présent, de fait. Donc de reconstruire cet environnement en modifiant, en amenant des décalages dans cet environnement. Et ensuite, en respatialisant dans cet environnement même le résultat transformé des sons qui sont captés dans l'environnement. Donc la première installation était à Tours, et pour donner simplement un exemple, donc à Tours, l'école des Beaux-Arts est assez particulière, parce qu'elle est très, déjà au niveau de l'architecture, c'est vraiment construit sur c'est une forme très, très classique, qui reprend un petit peu les classicismes du 19e, mais réactualisé au 20e, et qui fonctionne un peu comme une forteresse. Donc non seulement au niveau architectural, mais aussi, je dirais, au niveau du fonctionnement. Parce que pour rentrer dans l'école des Beaux-Arts de Tours, il faut quasiment montrer sa carte d'identité. C'est assez étonnant pour une école d'art, mais il y a quelqu'un qui surveille à l'entrée, justement l'entrée des élèves. Donc nous, l'idée en intervenant dans cet espace, puisqu'on était invités pour, je dirais, implémenter le poulpe, un des bras des poulpes, une des tentacules, c'était d'une certaine manière d'ouvrir la forteresse sur l'extérieur. Et le son devenait pour nous un moyen d'ouvrir cette forteresse. Voilà, ça, c'est l'entrée de la forteresse. Et notamment, donc on a mis des micros, un élément qui a assez bien marché dans ce sens-là, c'est qu'on a mis un micro sur le toit qui prenait en fait le son des oiseaux et qui ensuite était rediffusé dans le couloir central. Et en fait, simplement le son des oiseaux recomposé ouvrait complètement l'espace. Quand on rentrait dans le couloir, on avait l'impression qu'il y avait une ouverture en extérieur. Donc ça, c'est un petit exemple du type d'effet, de la manière dont on va construire l'espace. Donc après, ce qui est le défi qu'il y a dans ce projet-là, c'est justement d'investir un espace et de laisser un environnement de manière permanente, mais de telle manière à ce que les gens ils vivent avec et que ça ne soit pas insupportable pour eux. Donc c'est pour ça qu'on travaille en fait avec les gens qui nous invitent. Donc là, ça prend la forme d'un workshop à chaque fois, qui vont d'une certaine manière, à travers ce projet-là, se réapproprier leur propre espace de vie, parce qu'il va falloir tendre des fils, câbler, donc complètement avoir une autre lecture de l'espace et une autre écoute de l'espace. Donc ça, c'est le premier lieu qu'on a fait. Enfin, en fait, c'est le deuxième, parce que le premier lieu qu'on a fait, c'est Nantes. Mais Nantes, c'est assez particulier, c'est dans nos locaux, qui fait que l'installation est en évolution permanente. On est toujours en train de modifier l'installation en fonction, je dirais, de notre propre vécu du lieu. Donc, par exemple, en pleine réunion, des fois, on est dans des interventions du poulpe. Et le poulpe fait partie de notre environnement au même titre que l'architecture, que les murs de l'architecture. Donc, le troisième lieu, ça a été Orléans, qui là, un lieu complètement différent, c'est un espace associatif. Donc on était invité par Labo Média, qui est un espace culture multimédia, qui est donc à la Maison Bourgogne, qui en fait abrite plein d'associations, où donc la dynamique est complètement différente. Et l'architecture du lieu est assez représentative de cette dynamique, parce que ça prend un peu une forme labyrinthique. Enfin, c'est difficile de y aller la première fois sans s'y perdre, enfin, de se retrouver sans s'y perdre. Donc on a un petit peu voulu retranscrire ça au niveau sonore. Je dirais qu'on a joué avec la dimension labyrinthique du lieu, pour créer des effets sonores qui allaient surprendre jouer vraiment, accentuer cette dimension spectrale et fantomatique de la diffusion sonore. Ensuite, le quatrième lieu, c'est Bourges, donc c'est une médiathèque. Donc, là, tu mets lequel? Donc la médiathèque de Bourges, là, on l'a fait il y a un mois. Donc là, c'était encore complètement un autre environnement parce que c'est un espace public qui n'est pas du tout dédié d'habitude à des installations. Et parce qu'il fallait justement, négocier avec le personnel et travailler avec lui pour que ces dispositifs-là participent de leur vie quotidienne et l'amènent aussi à avoir un autre regard sur leur propre espace de travail. Donc ensuite, l'idée, donc il y a quatre streams qui sont diffusés en continu donc sur la web radio d'Apo 33 avec un mixage donc sur lequel on est en train de travailler de tous ces streams-là. C'est-à-dire, l'idée, c'est de créer une forme d'espace qui, en fait, agencerait les différents environnements, les superposerait, les ferait se chevaucher et se mixer. Donc, en fait, on voit déjà dans ce projet-là, en fait, c'est l'aboutissement d'un travail qui a duré donc pendant 3 ans et qui est parti d'une réflexion sur la notion de radio. Donc, qu'est-ce que c'est que la radio aujourd'hui à partir du moment où il y a Internet ? Donc, c'est lié, je dirais, à notre pratique, ou l'inscription de notre pratique dans l'histoire des musiques expérimentales, notamment en relation avec Pierre Schaeffer, qui a inventé la musique concrète, et qu'il a inventé dans le contexte de la radio, de Radio France. Et donc, nous, notre question, c'est que devient la radio après, comment réinventer, comment est-ce que la radio peut nous amener à réinventer la musique ou la pratique sonore à partir du moment où Internet et, toutes ces nouvelles configurations techniques émergent. Parce que ce qui est intéressant avec Pierre Schaeffer, c'est qu'il a inventé donc la radio dans le contexte de Radio France, c'est-à-dire en reprenant le schéma de la radiodiffusion. Donc c'est quoi la radiodiffusion ? C'est le schéma classique de la radio telle qu'on la pratique classiquement, d'un émetteur central qui diffuse sur une série de récepteurs, chacun séparés et à distance. Donc ça, c'est le schéma de la radiodiffusion. Et en fait, ce qu'a fait Pierre Schaeffer, c'est quand il a inventé la musique concrète, il a inventé cette musique concrète à partir d'une série d'outils qui étaient le vinyle, le magnétophone et justement la radiodiffusion, avec au cœur de ces trois dispositifs-là la chaîne électroacoustique, qui est en gros un micro, une amplification et un haut-parleur. Et donc, ce qui est important, c'est que qu'est-ce qu'il a inventé, qu'est-ce que c'est que la musique concrète et qu'est-ce qui spécifie la musique concrète, c'est l'enregistrement sous forme d'objets sonores de la réalité. Donc, c'est vraiment la notion de l'enregistrement qui devient clé là-dedans. Et donc, à partir de l'enregistrement et de la formation, de la constitution d'objets sonores, qui vont devenir les objets sonores, les unités élémentaires de composition, on passe ensuite à une autre dimension qui va être le montage. Donc là, ça reprend le modèle du cinéma. On va prendre une image, et après, on va faire des séquences d'images à partir d'un montage. Donc le schéma de la musique concrète fonctionne sur ce principe-là. C'est toute une série de nouvelles opérations, donc c'est une nouvelle poétique, en fait, que invente Pierre Schaeffer à travers l'invention de la musique concrète. Et nous, en expérimentant, je dirais, les différents dispositifs technologiques, petit à petit, on a été amené, je dirais, à inventer notre propre poétique, qui est celui, non pas de la musique concrète, mais on va plutôt parler de musique environnementale. Donc, je vais un peu expliquer pourquoi, mais je pense que déjà, par rapport à ce que j'ai dit, il y a déjà des liens. C'est que qu'est-ce qui se passe avec... je dirais Internet ou les technologies de la radiocommunication. C'est justement, il y a un changement de paradigme. On passe du système de la radiodiffusion, donc avec l'émetteur central et la multiplicité de récepteurs, au paradigme de la radiocommunication, qui est celui qu'on utilise. Paradigme. Alors, paradigme, c'est un système de normes et de pratiques, en fait, qui vont, qui vont influencer justement les comportements et les pratiques des individus, en gros. Donc, par l'invention d'un nouveau paradigme, c'est-à-dire c'est une nouvelle manière de penser et d'agir qui est inventée. Et l'articulation de ces deux-là. Donc, dans le passage de la radiodiffusion à la radiocommunication, la radiocommunication, c'est quoi ? C'est le schéma en fait, qu'on utilise aujourd'hui de plus en plus régulièrement avec tout ce qui est téléphonie portable, tout ce qui est système de CB, système de... tout ce qui est simplement Internet, en fait. C'est-à-dire, c'est un schéma d'émission en réseau. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs émetteurs et chaque émetteur peut devenir en même temps récepteur. Donc, il n'y a plus un émetteur central et une diffusion qui vague dans un sens, mais il y a chaque point, en fait, du réseau peut devenir émetteur à son tour. Donc c'est un peu de ça qui est parti au début, le point de départ de notre expérimentation. Mais là-dedans, qu'est-ce qui est introduit de vraiment nouveau, qui va complètement modifier, je dirais, le traitement du son et qui va aussi modifier le schéma, je dirais, classique de l'électroacoustique. c'est la notion de flux. Pourquoi ? Par exemple, là, on voit bien que ce qui va basculer, c'est la dimension de l'enregistrement. C'est-à-dire qu'autant dans le système de la radiodiffusion, il y avait d'abord enregistrement du réel et ensuite, à partir de ces unités sonores élémentaires, donc recomposition, montage d'une pièce sonore, avec un dispositif, par exemple, comme le Poulpe, on va poser des micros qui vont être en permanence en train de capter. Ce qui est capté, ce n'est pas du son fixé, c'est du son qui, en continu, se transforme, est modifié, est enregistré. Et c'est cette modification, enfin, ce son, ce flux continu qui va rentrer, va devoir va exiger un autre mode de traitement du son. Il n'y a plus l'image qui est fixe, et après, hop, on traite l'image, on fait un film. Donc l'image sonore ou visuelle. Là, il y a du flux continu qui rentre, qui va rentrer dans la machine, qui va être l'automate, qui va ensuite être une série de mécanismes qui va agir et remodeler ce flux continu. Donc on voit qu'on passe donc de l'objet sonore au montage, et là on passe au flux et à l'automate. C'est-à-dire que là aussi, c'est la position, je dirais, du compositeur qui change complètement. Il n'y a plus le compositeur qui va composer des sons, il y a le compositeur qui crée un automate, c'est-à-dire une machine qui a une autonomie propre, et c'est elle qui va ensuite composer, c'est-à-dire réagencer les sons. Donc ça, c'était un peu pour donner l'idée de un peu la modification qui s'opère par rapport à la musique concrète et comment justement tous ces outils, ces nouveaux outils, donc le passage au schéma de la radiocommunication, va complètement pour nous, enfin en tout cas, a complètement transformé notre poétique. Tous, c'est pas possible.
Attends, ne force pas parce que moi j'ai pas de son. Je te remets.
Voilà, ça c'est les castrines qui sont diffusées. Et donc là, on entend Bourges. Donc là, c'est la médiathèque, donc elle ouvre l'après-midi. Donc là, c'est plus, on va entendre plus des fragments des gens qui sont en train de travailler. Mais c'est retransformé, puisque l'idée, c'est surtout, et c'est plutôt l'inverse, il ne s'agit pas du tout de faire un système de surveillance, mais au contraire, de retransformer notre propre quotidien. Et c'est vrai que c'est des fois, on écoute en fait les streams, et même dans nos propres locaux. Par exemple, à Apo 33, quand on écoute le stream d'Apo 33, parce qu'il est diffusé en permanence en fait dans nos locaux, ça crée une espèce d'ambiance presque fantomatique où on voit que des choses se passent et on ne sait pas vraiment où elles se passent. Donc c'est, on est toujours surpris par l'espace dans lequel on travaille. Donc après avoir expliqué un peu cette notion du passage de radiodiffusion au passage au schéma de la radiocommunication. Donc, il y a deux autres notions qui sont assez importantes, mais je ne vais peut-être pas développer maintenant, qui sont celles d'hyper-architecture, ce qu'on appelle l'hyper-architecture, qui va être justement l'infrastructure générale qui va en fait supporter le schéma de la radiocommunication, c'est-à-dire hyper, c'est-à-dire hypertexte, c'est-à-dire une architecture en réseau mais multistrate. Et nous, l'hyper-architecture, c'est pour nous l'architecture qui est en train de se mettre en place. C'est-à-dire que le système lui-même, système technique capitaliste, est en train d'implémenter au niveau de l'ensemble de la réalité. Donc ça, c'est ce que nous, on va appeler l'hyper-architecture. Et nous, là-dedans, comment on se place ? Nous, on envisage nos dispositifs comme des dispositifs d'hyper-anarchitecture. Donc il s'agit au contraire d'utiliser d'une certaine manière les réseaux, c'est-à-dire les systèmes, le système qui est en train de se mettre en place pour peut-être non pas le retourner contre lui-même parce que l'effet boomerang est toujours dangereux, mais en tout cas pour opérer des déplacements et introduire des lignes de fuite quoi, ou nous on aime bien parler de lignes de chaos. Donc nous, ce qui serait notre étendard, ça serait plutôt celui du chaos contre l'ordre. Et c'est pour ça que le poulpe, plutôt que en fait l'image de l'organisme peut paraître ambiguë, parce que l'organisme, il y a la notion de corps. Or, ce n'est pas du tout un corps qu'on produit avec le poulpe. C'est plutôt l'idée d'agencement tentaculaire qui est derrière la notion de poulpe. Donc là, justement, pour voir un petit peu comment opère cet agencement tentaculaire qui est le poulpe, j'ai essayé de donner une série de modes opératoires, d'écrire une série de modes opératoires justement qu'on met en œuvre et qui sont petit à petit en fait dégagés de notre pratique. Donc le premier... Oui, parce qu'il reprend. Il est hyper anarchitectural. C'est-à-dire qu'il reprend. Justement, je vais montrer en quoi il est hyper anarchitectural. Les différents modes opératoires vont montrer en quoi, justement, il ne contrairement à l'hyper-architecture qui forme système, là, ce qu'on propose ne forme pas système. C'est-à-dire s'appuie sur le système, mais pour l'ouvrir. Voilà, opérer des décalages, introduire des lignes de fuite. Donc le premier élément de cette pratique anarchitecturale par lequel va se déployer en fait cet agencement tentaculaire, c'est ce qu'on appelle l'infiltration. Donc notre premier geste quand on arrive dans un environnement, donc ça va être l'infiltration. Donc qu'est-ce que c'est que l'infiltration? Donc je dirais que ça veut dire qu'on conçoit on voit un peu toutes les connotations qu'il peut y avoir dans la notion d'infiltration. Mais en gros, on envisage le milieu dans lequel on intervient comme un filtre. Donc, une architecture, à la fois sociale et technique, c'est un système de filtrage. Et donc, nous, on va essayer, à l'intérieur de ce système de filtrage, de développer des tactiques d'infiltration qui va faire qu'on va percer, en fait, à jour... des espaces ou des zones intermédiaires ou des failles dans cette architecture et essayer d'ouvrir ces failles et de révéler un petit peu ce que les différentes infrastructures qui organisent cette architecture. En fait, d'une certaine manière, il s'agit d'engendrer des flux contraires qui vont venir mettre en danger la stabilité de ce barrage. C'est-à-dire que l'architecture, elle va être envisagée comme filtre, c'est-à-dire comme barrage. Donc l'image du barrage, où il y a un flux qui rentre et qui ensuite, le barrage va redistribuer les différents flux. Et c'est vrai que l'automate fonctionne aussi comme un barrage. Mais c'est un barrage qui vise à introduire des courants contraires à l'intérieur du barrage général, qui est le barrage de l'architecture sociale elle-même. Donc, je prenais l'exemple tout à l'heure de Tours. Donc là, par exemple, ça c'était à Tours justement. Donc c'était la première fois en fait que les gens qui travaillaient dans le lieu découvraient en fait qu'il y avait des voies de canalisation. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu pénétré l'ensemble du lieu et ça a été aussi important, je dirais, un niveau plus de réappropriation du lieu lui-même, quoi. C'est-à-dire que ça a été une manière simplement de faire passer des câbles partout, c'est aussi une manière de se réapproprier le lieu et de tracer un autre cheminement, en fait, de tracer, je dirais, à même l'espace, je dirais, les flux qu'ensuite on va faire traverser sur le web. Donc la notion d'infiltration. Donc la notion d'infiltration, c'est aussi, d'une certaine manière, faudrait penser à l'image de l'eau qui s'infiltre et qui finit par désagréger, en fait, le substrat à travers lequel elle passe, pour faire apparaître l'infrastructure qui la supporte. Donc c'est un peu de cette manière-là qu'on perçoit l'infiltration. Et il y a aussi la notion de filtre dans le sens de forme, dans ce qui impose une forme. Et d'une certaine manière, nous, le mode d'infiltration vise à amener de l'informe, quoi. C'est-à-dire à produire de l'informe qui va pénétrer cette forme. Un peu de la même manière qu'on va déformer le son qu'on va capter pour le réinjecter ensuite dans l'espace. Donc ça, c'était l'infiltration. Le deuxième mode opératoire, ça va être ce qu'on appelle des agencements machiniques. Donc là, machinique est à distinguer de mécanique. Mécanique, qui est un système qui vise à produire des effets définis, alors que machinique, qui est un système unique, qui fonctionne sur une logique unique, alors que le machinique, ça va être plutôt la rencontre de deux hétérogénéités qui vont être mises en relation. Donc pour donner peut-être un exemple qui pourrait symboliser cette idée d'agencement machinique, Il y a l'ordinateur, justement, qu'on a fait à Tours, qui est plus bas. Voilà, qu'on a mis là-haut. Qui est en fait la rencontre de l'ordinateur et du tabouret. C'est-à-dire de l'ordinateur, c'est-à-dire le serveur, qui va lui diffuser les streams, et qu'en fait, on a simplement pris un tabouret, qui est d'habitude fait pour s'asseoir, et qu'on a renversé à l'intérieur duquel on a mis l'ordinateur serveur. Donc là, je dirais que la rencontre de ces deux réalités hétérogènes, donc qui appartiennent à des types de réalités qui n'ont absolument rien à voir, ben voilà, ça c'est un type d'agencement machinique. Et je dirais que tout le mode d'intervention qu'on va avoir dans les espaces, il est de ce type-là. C'est-à-dire qu'on va mettre en relation des modes, des réalités complètement hétérogènes qui travaillent sur des niveaux de pensée ou de pratique qui n'ont rien à voir. Donc voilà, ça c'est l'agencement machinique. Donc il y en a d'autres. Il y a aussi celui de Bourges, qui est intéressant, qui là est carrément au niveau de l'espace lui-même. C'est-à-dire on a pris... Donc là, quand on arrive dans l'entrée, en fait, donc on voit ça, c'est l'espace au-dessus de là où on rend les livres. Et donc, en fait, on a suspendu l'ordinateur entre les deux niveaux. Et donc là, d'une certaine manière, l'ordinateur matérialise aussi en fait, ce qui est en train de se passer dans l'ensemble du lieu lui-même. Quoi. C'est-à-dire tous les fils qui, eux, sont invisibles, parce qu'il ne s'agit pas de mettre des fils pour que les gens se cassent la gueule. Donc, en fait, tous les fils, on les fait passer par tous les trous par lesquels passe aussi l'infrastructure, tous les fils du réseau, d'ordinateur, de la bibliothèque, etc. Il y avait le serveur, en fait, qui, lui, diffuse les flux. C'est-à-dire là où il y a qui héberge l'automate et qui ensuite renvoie le flux retransformé à la fois dans les haut-parleurs, donc la spatialisation, et à la fois sur Internet. Voilà. Ensuite, le troisième mode opératoire, c'est ce qu'on appelle la stratification. Donc la stratification, c'est l'organisation des différents agencements les uns avec les autres. Donc il y a tous ces agencements machiniques qui vont petit à petit être agencés les uns avec les autres. Donc par exemple, comment on procède concrètement ? Concrètement, donc, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau où il faut installer déjà les micros, donc ça veut dire câbler l'ensemble pour installer les micros, à moins d'utiliser les radios, parce que des fois on utilise les radios, ça évite aussi de câbler l'ensemble. Donc plus des systèmes portables. Donc on installe les micros. Ensuite, il y a l'autre niveau qui est tout l'aspect automate, donc la mise en relation des micros et de l'automate, qui va en fait recevoir ces différents flux et ensuite les remixer. Et après, il y a un autre niveau qui est le réseau général à travers lequel va diffuser l'automate. Donc, je dirais, il y a ces trois niveaux-là. Puis ensuite, il y a l'espace lui-même, qui est l'architecture, et les rapports sociaux qui se déroulent dedans. Donc, je dirais, il y a tous ces niveaux-là qui fonctionnent ensemble. Quand on travaille l'installation, il faut articuler ces différents niveaux. Je dirais, ça va être un niveau, je dirais, simplement avec les gens qui vivent dans le lieu, discuter avec eux, leur demander leur avis, essayer de les impliquer dans l'installation, voir comment eux, ils vivent le lieu au quotidien. Ça va être aussi avoir un regard sur l'architecture, sur comment elle fonctionne, sur comment, si on diffuse dans tel espace, quel effet ça va produire. Donc ça va être où on positionne les micros. Et ça va être aussi donc, comment on organise, comment l'automate il va travailler. Donc par exemple, en fonction de tel rendu sonore dans tel lieu, quel mode de distribution dans l'espace, quel mode de mixage, quel mode de travail sur le son. Donc ça, il y a tous ces paramètres-là qui sont à chaque fois retravaillés en fonction de chaque lieu. Et donc ça, c'est le. Et ensuite, il y a le niveau plus du réseau général, parce qu'à chaque fois qu'on arrive dans un espace, on rencontre toujours des lieux qui sont, en fonction qu'on arrive dans un espace qui est municipal, Donc le réseau, il est aussi municipal, c'est-à-dire qu'il est géré d'une certaine manière et souvent très fermé. Alors que quand on arrive dans un espace qui est associatif, ben, le réseau, il est beaucoup plus ouvert. Donc on a beaucoup plus de facilité pour faire transiter des flux. Et donc je dirais, en fait, à chaque niveau, il y a une dimension, enfin on se confronte à la dimension, je dirais, politique de, ben, de l'ouverture ou pas du lieu, quoi. Donc, et en fait, toute cette dimension de... Enfin, il s'agit d'une certaine manière d'en rentrer dans le son, ces différentes strates, ces différents niveaux stratifiés, et l'articulation des différentes strates. Donc ça, c'était la stratification. D'une certaine manière, la manière dont on envisage l'élément du patch, donc tu peux peut-être donner un exemple de patch ? Donc un patch, c'est un peu comme ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc nous, on ne travaille pas sur Max, MSP, mais on travaille sur Pure Data, qui est en fait le logiciel qui a été créé par Muller-Piquet, qui est celui en fait qui au début avait créé Max MSP à l'IRCAM et qui a quitté l'IRCAM parce que justement elle en avait assez de la logique propriétaire et qui donc a décidé complètement reformer et reformuler les idées qui étaient un peu en germe dans Max. Mais complètement les reformuler avec Pure Data. Et sur une toute autre base, parce que Pure Data est aujourd'hui un logiciel qui est développé, je dirais, collectivement, à l'échelle de la planète entière, par des individus. N'importe qui en fait maîtrise un peu la technologie, peut participer au développement de Pure Data. Donc là, on n'est plus du tout dans la logique d'auteur. Il n'y a plus le programmeur qui a programmé son logiciel. C'est une communauté internationale de développeurs qui participe à la création et au développement d'un logiciel. Donc aujourd'hui, Pure Data n'est plus le produit, enfin je dirais, n'est plus l'objet ou l'œuvre de Muller-Piquet, c'est l'œuvre d'une communauté internationale. Donc ça change complètement la donne par rapport aux enjeux de l'auteur, de la création. Et donc, nous, notre démarche, elle s'inscrit vraiment dans cette dynamique-là. Donc ça, c'est un des modules Pure Data. Donc là, c'est le patch d'Orléans. Et en fait, chaque module contient lui-même un autre patch. Donc en fait, ça, c'est assez important. Enfin, le patch est vraiment important. Parce qu'en fait, c'est là où on voit bien que l'idée, il ne s'agit pas de reproduire le réel, il ne s'agit pas de produire que le son retranscrive le réel, mais plutôt d'opérer des déplacements dans ce réel, quoi. C'est-à-dire que le patch va être l'élément qui va nous permettre de justement procéder à ces déplacements, de capter des flux du réel, enfin des données qui sont des retranscriptions du réel, pour les opérer des déplacements, les transformer. Donc voilà. Donc si vous voulez plus de questions après sur les patchs, sur Pure Data, sur logiciel libre, on va y arriver. Ensuite, le quatrième mode opératoire, c'est ce qu'on appelle la ramification. Donc, la stratification, qui est plus un fonctionnement vertical, ou plutôt l'articulation verticale des différentes strates, et la ramification, qui va être le déploiement horizontal de cet ensemble de strates. C'est-à-dire que la stratification, elle participe de la production et de la découverte de nouveaux phénomènes, et elle engendre de ce fait un processus de ramification, c'est-à-dire de réajustement permanent, de déplacement et de recombinaison. Donc en fait, on va avoir un espèce de système qui va se déployer et qui à chaque fois va se recombiner en fonction des nouveaux éléments qui sont découverts. Donc ce n'est pas un système en fait, parce qu'il n'y a pas de fin. Il y a toujours des réajustements qui s'opèrent en fonction, je dirais, de la matérialité du réel et des différents accidents qui sont rencontrés sur le parcours. Donc en fait, on a un espèce de dispositif qui s'étale, qui se déploie, qui prolifère, et c'est là qu'on voit vraiment la dimension tentaculaire de cet agencement. Petit à petit, ce dispositif, cette procédure de ramification, elle va connecter en fait l'agencement à un filtreur, donc le poulpe dans tel lieu, avec d'autres types d'agencements à filtreurs, qui vont avoir chacun une autonomie, mais qui, dans leur connexion, vont chacun se modifier les uns les autres. Donc l'image biologique de la ramification, c'est la plante, alors que l'image, pour la stratification, on a plus l'image géologique, géologie, donc des différentes strates dans un terrain. Donc d'une certaine manière, ce qui a été intéressant dans le développement de ce projet-là, c'est que très vite, on a découvert un phénomène qui nous dépassait. Et c'est qu'il y avait souvent un effet feedback, en fait, qui allait emporter tout le système. Pourquoi ? Parce qu'il suffisait qu'à tel moment, tel micro et tel haut-parleur soient mis l'un en face de l'autre, donc ça produisait un effet feedback. Et même si l'automate, après, allait déplacer, faire que tel haut-parleur ne soit plus, en fait, ce qui diffuse, ce qui est capté dans tel micro, l'automate allait quand même emporter l'ensemble du dispositif. Et donc, d'une certaine manière, tout le travail de la ramification et de la stratification, c'est d'éviter le feedback. Parce que le feedback, c'est quoi ? C'est la machine qui se boucle sur elle-même. C'est le système qui se forme. Donc, l'idée, c'est éviter que la machine se boucle sur elle-même en introduisant toujours des éléments d'hétérogénéité qui vont empêcher la systématisation du processus, quoi. Donc l'autre mode opératoire, c'est là qu'on tranche complètement avec l'idée de réseau dans le sens classique, avec l'idée de système, ou avec l'idée d'hyper-architecture, et qu'on rentre vraiment dans l'hyper-architecture, c'est la notion de prolifération. C'est-à-dire que les installations qu'on met en place sont comme des processus sans fin. En fait, on peut toujours produire et réintroduire des nouveaux agencements machiniques qui vont venir modifier l'ensemble. Donc il n'y a jamais un système qui a une autonomie complète, mais il y a des espèces d'embranchements tentaculaires qui peuvent toujours se développer. C'est-à-dire qu'on peut toujours mettre un nouveau micro, on peut toujours mettre un nouveau dispositif haut-parleur qui va venir modifier l'ensemble, donc il faudra retoucher l'ensemble. Donc faut toujours reconstruire un espèce d'équilibre qui est toujours instable. Et en même temps, ça fait qu'il y a des espèces de branches d'embranchements qui se développent dans tous les sens et qui peuvent se développer sans fin. C'est-à-dire que dans un lieu, potentiellement, on pourrait rester toute notre vie à travailler sur un même espace et toute notre vie, on serait en train de recomposer l'espace lui-même. C'est-à-dire que là, on tranche avec la notion d'installation dans le sens classique, qui est une forme fermée, donc telle installation a produit tel effet dans tel espace ou de telle manière. Là, avec le poulpe, on n'a jamais fini, quoi. On peut toujours potentiellement rajouter des nouveaux dispositifs qui vont venir, des nouvelles greffes, en fait, qui vont venir se greffer et venir transformer le corps. C'est comme si, en fait, on avait un corps et qu'on mettait une greffe et pour que, en fait, on se rendait compte qu'il manquait quelque chose, donc on mettait une autre greffe et puis pour que ça fonctionne avec le reste, il fallait mettre une autre greffe. Donc, une espèce d'organisme monstrueux qui n'en finirait jamais de se développer. Donc c'est pour ça que le poulpe n'est ni un corps, ni vraiment un réseau. C'est-à-dire un dispositif, au final, qui reste dans une logique mécaniste. Au contraire, le poulpe a pour fonction d'engendrer du chaos. Au contraire du réseau, qui lui se nourrit du chaos pour produire du mécanique. Donc les deux derniers modes opératoires qui sont à l'œuvre dans le projet du poulpe, c'est la contamination et la dissémination. Donc après la prolifération, il y a la contamination et la dissémination. Donc les effets, en fait, c'est quoi la contamination ? C'est quand les effets produits vont produire eux-mêmes d'autres effets. Donc c'est-à-dire qu'on va en mettre en place un dispositif qui va lui-même produire des nouveaux effets qu'on ne maîtrise pas. Et c'est là que ça devient intéressant et c'est ça qui souvent se passe. Et qui fait que ça va être réapproprié justement par d'autres. C'est les effets qui engendrent un nouveau phénomène. Donc ça va être simplement l'envie chez quelqu'un de sonoriser sa cuisine. Ça va être l'envie chez quelqu'un de monter sa web radio. Donc ça, c'est un certain niveau. Mais ça peut aussi avoir des effets beaucoup plus, pratiques dans l'espace lui-même. Et toute cette manière, de la logique de la contamination, elle est directement liée et de la dissémination, elle vient directement, je dirais, elle est directement impulsée par l'utilisation des logiciels libres. Donc là, je vais peut-être laisser rapidement la parole à Jean-François, qui va parler justement de l'Apodio, qui est en fait l'outil ou la distribution d'outils multimédia, donc audio et vidéo, streaming, etc., qui est celui qu'on utilise pour faire tout ça, et qui, justement, est une réunion de différents outils qui sont produits par la communauté internationale du libre pour développer des projets audio. Et donc cette philosophie de la contamination et de la dissémination, elle est vraiment inhérente au projet de GNU-GPL, qui est en fait le nom du projet du libre. GNU, c'est, GPL, General Public License, qui est en fait la licence contre copyright, qui justement a permis d'ouvrir une alternative au copyright. Donc je te laisse parler, Jean-François.
Ouais, dans le collectif APO 33, puisque au début on s'est heurté, c'est le mot, tous selon nos divers historiques à la technique. En informatique, moi je travaillais déjà sur des systèmes Unix et j'ai pensé, en ayant découvert il y a quelque temps les logiciels libres et surtout GNU Linux, que c'était plus simple pour tout le monde d'amener une plateforme, en fait. Au début, ce n'était pas vraiment une plateforme, c'était déjà une forme, une formation déjà de tout le monde. Déjà à l'utilisation des logiciels eux-mêmes, à la découverte sans cesse de nouveaux logiciels, parce qu'il n'y a pas un logiciel, mais il y en a toujours plusieurs pour remplacer une fonctionnalité particulière. Donc j'ai pensé que c'était plus intéressant avec tout le monde de développer une plateforme. Alors une plateforme, c'est quoi ? C'est quelque chose qui se transforme, qui se transporte facilement et qui doit s'installer sans avoir de bagages techniques importants, voire ne pas s'installer du tout pour pouvoir être utilisé. Donc on a conçu... dans la lignée des plateformes Linux qui existaient déjà, comme Knopix, sur une base de live CD, en fait, un live CD qui s'appelle Apodio, qui était au début uniquement composé de logiciels pour le son et pour le travail sur le son. On a fait une première version l'année dernière, qui fonctionne avec une machine assez costaud. Déjà, c'est vrai qu'on fonctionne sur une base Linux, mais sur PC aussi, pour déjà des raisons de développement, parce que moi, j'ai pas de connaissances sur Mac, et on a trouvé personne jusqu'à présent qui veuille passer suffisamment de temps pour faire un espèce de portage. Ça n'a pas l'air d'intéresser beaucoup les gens sur Mac, en fait. Enfin, ce n'est pas un appel que je fais, c'est une constatation. Y a plus une idée de consommation du logiciel sans savoir comment il fonctionne, plutôt qu'une réutilisation, une réappropriation pour en faire autre chose de ce qu'il n'est pas forcément capable de faire et d'utiliser aussi ses accidents. Bon, je ne vais pas détailler tout ce qu'il y a sur Apodio. Ça, c'est juste une mise à plat du menu, en fait. Donc, avec les mixeurs, les éditeurs, sampler, des systèmes comme Pure Data qui remplacent avantageusement Max MSP. Déjà parce que c'est libre, il y a une communauté qui développe des choses libres énormes. Vraiment, c'est hallucinant. Il faut vraiment aller voir Pure Data. Des outils de mise en place de radio, comment monter un serveur Icecast chez soi avec deux clics. Monter une web radio en 5 minutes, franchement, c'est tout à fait possible avec ce genre de logiciel. Et aussi, l'idée aujourd'hui, puisqu'on est passé sur une nouvelle, par architecture, mais une nouvelle évolution d'inclure des logiciels de multimédia. Enfin bon, là, je ne vais pas m'étendre trop non plus. Je pense que le plus simple, ce serait qu'on en parle après, sur ici, sur place, puis vous pouvez aussi vous connecter sur le site. Bon, déjà, pour Apodio, juste une petite idée. Ça, c'est la base des logiciels libres, donc, qui constituent une machine. J'ai mis... Là, j'ai juste fait un listing des logiciels qui sont dessus. Alors, logiciels, vous voyez, il y en a un certain nombre. Ce sont tous des composants aussi, hein. Il n'y a pas que des logiciels. Parce qu'il y a vraiment une architecture complète. Bon, il y a un forum, on peut y aller aussi. C'est ouvert. Tu continues sur... Après, autre chose.
Ben, je sais pas. Enfin, je crois qu'on n'a plus beaucoup le temps. Parce qu'on voulait parler d'un dernier projet qui est justement lié, qui est dans la continuité du Poulpe et qui est lié justement à la Podio, qui est un projet qui s'appelle Ubic, qui vise à... Enfin, qui correspond un petit peu au nom... Au nom de ce projet-là, donc ubiquité. Et enfin, c'est difficile à expliquer comme ça. Je ne suis pas sûre d'avoir le temps d'en parler, Jérôme. 5 minutes. Donc vas-y, vaut mieux que ce soit toi qui en parle de Ubic.
Ouais, alors j'avais fait un petit topo rapido l'autre jour. J'espère que je n'ai pas changé déjà d'idée. Bon, la base, déjà, c'est pour amener les gens à utiliser des logiciels libres. J'avoue que comme beaucoup d'utilisateurs de logiciels libres, au bout d'un certain temps, on devient un petit peu activiste. Donc, on cherche tous les moyens pour faire que ça se développe. C'est l'aspect virus, un petit peu, du système. L'idée d'Ubic, c'était basé sur... au départ, je travaillais plus sur les Tamagotchi, en fait. Donc sur des petits personnages qui réagissent à leur environnement et qui évoluent dans un milieu avec une historique. Et Apodio, justement, me donnait une plateforme de diffusion, de dissémination de ces systèmes-là. Aussi une plateforme de démonstration et de formation, puisque le Tamagotchi au départ était basé sur un patch pure data. Avec le travail qu'on a eu au niveau des web radios et notamment des forums sociaux, je pensais aussi que il y avait nécessité de créer des espaces virtuels d'information, mais qui soient non pas coincés, fermés par des serveurs, genre serveurs de France Télécom ou autres, et ouverts dans l'idée du peer-to-peer. Donc, Ubic est un live CD qui devrait permettre, à travers un système de peer-to-peer, de connecter un ensemble de gens. Bon, c'est un truc qui est en plein développement, donc c'est quelque chose qui peut aussi évoluer suivant les gens qui vont participer à ce projet-là. Un exemple de ce que ça produit, c'est une bonne ou mauvaise question, j'en ai pas d'exemple de ce que ça produit. Ah oui, Ubic, ouais. Ouais, c'est un personnage, donc plutôt un ensemble de personnages qui préexistera sur le CD. Donc il y a une espèce de caractéristique de patch d'installation sonore qui peut être interchangeable d'ailleurs entre les différentes machines si les gens interviennent dessus. Et l'idée de départ, c'est que le personnage commence par capter l'environnement sonore grâce au micro du portable ou au micro qu'on veut bien lui laisser. Et au son qu'on veut bien lui laisser consommer. Donc il se nourrit de l'environnement de chacun, en fait.
Oui, ça rejoint un peu l'idée du pool, justement, avec l'idée de superposition des environnements. Parce que là, d'une certaine manière, tous ceux qui, en passant par le live CD, pourraient participer à des compositions, à des mixages d'environnements différents. Donc, pourraient mixer leurs propres environnements sonores pour ensuite les rediffuser chez eux. Donc, un peu comme dans l'idée du poulpe, mais plus à la maison, quoi.
Il y a un peu l'idée du placard aussi. Sauf que le placard, il y a une chose assez volontaire. Dans Ubique, moi, je pense que le jeu et la version, enfin, l'approche ludique est plus importante. C'est pas tout, enfin, il n'y a pas une volonté de faire une œuvre. Il y a juste une participation à un jeu global. C'est plus dans cette idée-là que je pensais le projet.
Enfin, il y a pas mal d'articles en fait sur le site d'Apo 33 du Poulpe, enfin sur les différents concepts et réflexions qu'on mène par rapport à toutes ces choses-là. Donc, si voilà, vous avez pas mal d'informations sur le site. Ah oui, j'ai oublié de dire, le projet du Poulpe en fait sera présenté dans son intégralité, parce qu'en fait c'est le résultat d'une collaboration avec les trois ECM de la région Centre. Donc, qui nous ont invités à intervenir dans leurs espaces ou dans d'autres espaces, et qui sera présenté au Festival Bandimage à Bourges en février, début février. Voilà. Donc, je ne sais pas, il n'y a pas de questions ? Les deux.
Bah, les deux, justement. C'est amener tout un chacun à pouvoir d'abord, par une approche du jeu, tout simplement, d'utiliser ce système, parce que c'est un système qu'on impose au départ, mais c'est un jeu ouvert, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir ce jeu, puisque c'est un patch, c'est un ensemble de patchs pure data, pour le modifier, participer à son évolution. Déjà en tant que personne à viser, mais aussi involontairement. Donc il y a plusieurs niveaux. On peut participer à la mécanique du jeu, on peut participer aussi à son évolution plus sociale, parce que si plusieurs personnages réussissent à prendre forme, je pense qu'il y aura après une organisation à trouver pour que les différents ubiques puissent produire quelque chose, quoi. C'est audio-vidéo, oui. Oui. Le personnage Tamagotchi, c'est surtout une idée de base. Je pense qu'on peut, on n'est pas obligé de figurer un personnage avec deux yeux, une bouche, etc. Ça peut être assez abstrait, oui.